Europe Soir Weekend,
Céline Géraud.
Bonsoir, bienvenue à bord. Dans quelques instants et jusqu'à 20h, Europe Soir Weekend, nous débattrons des sujets qui font l'actualité. Mais pour le moment, il est 18h. L'actualité ce soir, les manifestations du 1er mai, des tensions et des violences dans le cortège parisien, beaucoup de dégradations, des feux de poubelles et des vitrines de commerce détruites à coups de marteau, des manifestants habillés tout en noir, portant des masques et des gants, ont tenté d'ériger une barricade et de s'en prendre aux forces de l'ordre. Avant que le cortège ne s'élance de la place de la République, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole. Le leader de la France insoumise appelle les Français à aller voter pour les législatives pour faire la différence et il affirme qu'il ne fera aucune concession sur la réforme des retraites que le gouvernement souhaite mettre en place. 255 défilés étaient prévus un peu partout en France à l'appel de nombreux syndicats et associations pour réclamer une politique plus sociale et plus écologique. Et pendant ce temps-là, les tractations se poursuivent à gauche en vue d'un accord pour les législatives. Jean-Luc Mélenchon presse les partis engagés dans la négociation de conclure un accord cette nuit. Les tractations sont censées s'achever ce soir. Marine Le Pen sort de son silence médiatique. Une semaine après le second tour de la présidentielle, dans un bref message vidéo, elle a appelé les électeurs à choisir les candidats RN aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Marine Le Pen qui ne s'est pas rendue ce matin au traditionnel dépôt de gerbe du Rassemblement National au pied de la statue de Jeanne d'Arc. En Ukraine maintenant, l'opération d'évacuation de civils de l'usine Azovstal à Marioupol se poursuit en coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge. Une centaine de personnes a pu quitter le complexe industriel selon le président ukrainien. Parallèlement, plus au nord, Nancy Pelosi a effectué une visite surprise à Kiev. Elle a rencontré Volodymyr Zelensky et rappelé le soutien des États-Unis qui sont aux côtés de l'Ukraine. Allez, un peu de sport, un résultat de judo à Sofia en Bulgarie. La Française Roman Dico décroche le titre de championne d'Europe en plus de 78 kilos. Et puis du football, 35e journée de Ligue 1 avant l'Olympico Marseille-Lyon à 21h. C'est Bordeaux-Nice au Matmut Atlantique pour Europe 1. Jean Berthelot, c'est le début de la deuxième mi-temps, on en est où ?
Oui, dans quelques instants, hein, ça va être le début, effectivement, 0-0 entre Bordeaux et Nice à l'issue d'une première mi-temps assez fermée. Les Aiglons ont eu un peu plus d'occasions que les Girondins, mais sans parvenir à marquer, à défaut donc de marquer également. Bordeaux n'a pas encaissé de but, c'est mieux que sur les derniers matchs, mais il faudra en faire davantage pour garder une chance de rester en Ligue 1. Coup d'envoi de la seconde période dans quelques instants, 0-0 donc entre Bordeaux et Nice.
Merci Jean Berthelot, à tout à l'heure. Enfin, la chanteuse Régine, la reine de la nuit, connue pour avoir interprété notamment Les Petits Papiers.
Laissez brûler les petits papiers, papiers de riz ou d'Arménie.
Régine s'est éteinte ce matin, elle avait 92 ans, sa carrière, les réactions tout à l'heure à 20h avec Sophie Tussaud.
Europe Soir Weekend,
Céline Géraud.
Allez, ravi de vous accompagner pour ce nouveau numéro d'Europe Soir Weekend. On est ensemble jusqu'à 20h et au sommaire ce soir, eh bien les rassemblements du 1er mai bien sûr. Le premier rendez-vous revendicatif de ce nouveau quinquennat avec des syndicats unis mais une gauche dispersée. La mobilisation a-t-elle été massive ? Ce fameux troisième tour social a-t-il eu le retentissement attendu ? Nous allons en parler dans quelques instants. Les cérémonies du 1er mai, un moment symbolique aussi pour le Rassemblement national, mais sans Marine Le Pen qui joue la carte de la discrétion, préférant poster un message vidéo à ses partisans. Cette pause préfigure-t-elle d'un futur retrait de Marine Le Pen au-delà des législatives ? On en parle. Alors dans le studio d'Europe 1 Weekend ce soir, je salue Prisca Thévenot, porte-parole LREM.
Bonsoir.
Bonsoir Prisca. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National.
Bonsoir.
Merci d'être là. Philippe Doucet, membre du bureau national du Parti Socialiste.
Bonsoir.
Bonsoir Philippe. Et puis Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP.
Bonsoir.
Bienvenue à bord.
Merci.
Alors, avant de vous entendre, je vous propose d'aller tout de suite prendre tout simplement le pouls sur le terrain au cœur du cortège parisien avec Arthur Pereira. Bonsoir Arthur. La mobilisation a-t-elle été au rendez-vous ?
Oui, tout avait bien commencé à 14h30. En tête du cortège, les mouvements syndicalistes de la CGT et de Force ouvrière ouvraient la marche derrière des milliers de manifestants. Et comme vous pouvez l'entendre, des chants révolutionnaires ont été entonnés pour l'occasion. Certains étaient accompagnés de pancartes dans les bras, d'autres étiraient de longues banderoles en avançant vers la place de la Nation. La plupart dénonçaient les conditions de travail précaires, d'autres portaient sur les épaules un gilet jaune comme marque de contestation. Mais le tout dans le calme. J'ai même pu rencontrer des familles avec des jeunes jeunes enfants. Ils me le disaient, le but, faire perdurer cette tradition que leurs parents leur ont eux-mêmes transmise.
Et malheureusement, Arthur, il y a eu, comme on pouvait s'y attendre, des débordements avec des casseurs dans l'après-midi, des actes de vandalisme qui ont vraiment pollué ce défilé.
Oui, peu après le début de la manifestation, des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et Black Bloc. Des jets de pavés, des poubelles en feu, des vitrines complètement détruites, des murs tagués par des slogans anticapitalistes. L'image festive a vite laissé place à un affrontement brutal à l'image de ceux connus des manifestations des Gilets jaunes. J'ai pu voir certains commerçants baisser leurs rideaux pour protéger leurs établissements. Et afin d'éviter le jet de projectiles, certains manifestants se sont exfiltrés par des ruelles avoisinantes. Actuellement, les forces de l'ordre encerclent la place de la Nation où les manifestants arrivent progressivement.
Merci Arthur Pereira, on vous retrouve tout à l'heure au cœur du cortège parisien pour ce 1er mai. Et j'ajoute à l'instant que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a réagi cet après-midi à ces violences inacceptables commises par des casseurs habillés de noir et venus perturber les manifestations du 1er mai, assurant son soutien aux policiers et aux gendarmes mobilisés. Je commence avec vous Philippe Doucet, j'ai envie de vous entendre sur ces heurts, ces débordements qui ont finalement pollué ce défilé, mais surtout assommer un peu ces revendications, parce que finalement, que va-t-on retenir de ces manifestations du 1er mai ?
C'est ça qui est terrible, parce que le défilé, manifester, d'abord, le 1er mai, c'est une fête historique du travail qui a une très longue histoire, et donc c'est à la fois la fête des travailleurs, et c'est aussi le marqué des années de lutte sociale, de conquête sociale, et de réussite, de gain. Et depuis quelques années, on constate qu'avec l'histoire de Black Bloc, que là où on devait avoir des manifestations pacifiques, on peut y aller en famille, avec des enfants. Vous voyez, c'est un rassemblement qui se veut bon enfant, vous voyez, avec des slogans politiques, des slogans sociaux.
Sociaux,
surtout,
oui.
Et qui finissent aujourd'hui, vous voyez, de quoi on va parler. Vous m'interrogez, on ne parle pas des revendications, on ne parle pas du pouvoir d'achat, on ne parle pas de l'indice du point des fonctionnaires, on parle des manifestations. Parce que qu'est-ce qui va tourner, aussi bien sur votre antenne, et c'est bien normal, que sur les chaînes d'infos, c'est le pompier qui se fait taper ce qui est dessus.
Hallucinant,
voilà,
du côté
donc
de
tout
Nantes,
ça est hallucinant. Ouais. Et donc, du coup, on retient la violence et on ne retient pas, finalement, l'objet de ce 1er mai comme des autres 1er mai. Et
un
donc,
1er ça devient mai qui terrible. Était très attendu. Hein,
oui, qui
plus.
Était très attendu. Mmh. Donc, finalement, ces Black Blocs, ils tuent la démarche des organisations syndicales, du monde du travail. C'est complètement débile. Ça me met dans une colère noire, parce que c'est débile, c'est totalement contre-productif.
Clairement, troisième tour social qu'on attend dans cette rue, qu'on attendait dans la rue. Laurent Jacobelli.
Oui, effectivement, il y a une tradition du 1er mai avec les revendications sociales. On a l'habitude et c'est bien normal. C'est un moment qu'on attend avec à chaque fois des sujets qui sont sur la table. On pourrait parler de la retraite à 65
ans. Ça, c'est un des cœurs de leurs revendications.
Du pouvoir d'achat. Une petite parenthèse, il est d'ailleurs curieux de voir un certain nombre d'organisations syndicales appelées à défiler contre la retraite à 65 ans alors qu'ils ont aidé à faire élire le président Emmanuel Macron qui porte cette
réforme.
Vous
pensez à qui ?
Mais, comme la CGT par exemple, mais d'ailleurs tous les syndicats ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc, il y a une espèce de paradoxe, on va dire, comme si la machine s'auto-alimentait.
Il y a une union des syndicats alors que la gauche est plutôt dispersée. Ça, on peut le constater.
Mais j'aimerais dire que cette tradition-là, elle est acceptable et je crois qu'elle est aimée et partagée par les Français, même si on n'est pas syndicaliste. En revanche, il y a une tradition qui devient détestable, c'est celle des Black Blocs qui viennent pourrir les fins de manifestations, notamment sociales, et on l'avait vu à l'époque des Gilets jaunes.
Alors là, ils n'ont pas attendu la fin, ils ont attaqué dès le début de l'après-midi.
Oui, un petit changement dans la méthode, mais ça ne change pas la révolte que ça peut provoquer chez nous. Alors vous avez, M. Doucet, évoqué ce pompier qui est là pour aider, il était là pour aider à éteindre un incendie et il s'est fait agresser, des policiers se sont fait agresser, comme si tous les symboles de l'autorité de l'État étaient les ennemis de ces Black Blocs, de ces milices qui sévissent dans nos rues. Et M. Darmanin a probablement fait un tweet, c'est très bien, ça lui a probablement pris 5 minutes, mais il aurait mieux fait, je crois, d'agir en amont, parce que c'est pas une nouveauté de voir ces types en noir, ces voyous en noir
arriver. Il y avait quand même beaucoup de sécurité qui était prévue.
Des vitrines.
Pourquoi vous avez la sensation qu'on a allégé les dispositifs de sécurité depuis la fin des anti-vax, des gilets jaunes, des manifestations.
Mais maintenant, on connaît un certain nombre d'organisations, même si elles ne sont pas toujours formelles, qui hébergent ces Black Blocs. Il faut les dissoudre. Et il faut que ceux qui sont les nervis de ces milices d'extrême-gauche soient arrêtés, emprisonnés s'il le faut. Mais il faut protéger nos concitoyens et les manifestants de, excusez-moi le mot, de cette vermine.
Prisca Thévenot, porte-parole l'AREM.
Oui, déjà, par rapport aux pompiers, adresser toute notre solidarité, bien évidemment. Et puis, je crois que d'autres forces de l'ordre se sont fait aussi malmener aujourd'hui. Je revenais sur votre phrase, M. Jacobelli, qui veut faire de la politique là où il ne devrait pas y en avoir. Quand vous essayez de mettre cela sur le dos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en réalité, ce que vous faites, c'est que vous venez remettre en cause le travail de nos forces de l'ordre.
Non.
Honnêtement, ils font un travail incroyable. Oui, mais ils sont sur le terrain. Ils font un travail incroyable. Et je pense que venir dire que c'est de leur faute, non. Ces casseurs n'ont pas à être là.
Vous détournez ma phrase.
Mais je pense qu'il faut faire attention.
De Gérald Darmanin.
Je pense qu'il faut faire
vous
attention.
Savez le respect que j'ai pour nos forces de l'ordre.
Je le sais très bien, mais je pense qu'il est important de rappeler cela. C'est eux qui sont sur le terrain. Ils savent leur travail. Mais oui, il y a des casseurs. Et rappelons-le d'ailleurs, ce ne sont pas des manifestants, ce sont des casseurs qui s'infiltrent. Et vous savez très bien que ça arrive. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut qu'on condamne aujourd'hui, plus que d'en faire un objet politique.
Alors, avant de vous entendre, Frédéric Dabi, sur directeur général de l'Institut IFOP, je vous propose d'écouter Philippe Martinez, donc le secrétaire général de la CGT, qui lui était évidemment au cœur du défilé au départ et qui nous parle de mobilisation, de sujets sociaux. Évidemment, il y a une unité des syndicats et c'était important, c'était le jour où.
C'est une manifestation pour nous sociale. Je sais que l'actualité politique est riche, mais pour nous, c'est une mobilisation uniquement sur les enjeux sociaux et environnementaux. Et d'ailleurs, moi, je me félicite qu'il y ait une large unité syndicale, mais aussi la présence d'ONG, d'associations. Ça donne le contenu qu'on veut donner à cette mobilisation d'après l'élection présidentielle.
Alors, le combat continue, les retraites, les salaires, voilà. Les syndicats sont toujours là, sont toujours en vie, alors que finalement, on a la sensation qu'ils s'affaiblissent peu à peu.
Oui, le 1er mai, la journée du mouvement syndical. Alors, j'entends ce que dit Philippe Martinez, mais c'est vrai que c'était un 1er mai assez exceptionnel. Et c'est pour ça que, dans un sens, une partie de la fête, si je puis dire, a été gâchée. C'est tout simplement le 1er mai qui fait suite à une élection présidentielle. Puisque
vous
compte tenu
raison.
De,
oui.
Du fait que le calendrier a été avancé très souvent, le 1er mai a été entre les deux tours. En 81, on se souvient des images du PSUNI qui s'apprêtait à reporter les élections. C'était une semaine avant le second tour en 88. Enfin, c'était un moment politique de l'entre-deux-tours présidentiel.
Gâché, selon vous ?
Là, c'est vrai que ça
aurait... Frédéric Dabi, je rappelle, c'est un moment, directeur général de l'Institut de
sondage IFOP. C'était un moment d'unité syndicale, plus uni que par le passé, mais aussi, c'était le moment où les différents mouvements de gauche étaient tous sur le terrain, qui pouvaient essayer de montrer cette unité de la gauche pour essayer de rattraper, si je puis dire, la défaite à l'élection présidentielle. De ce point de vue-là, ça a été éclipsé. Maintenant, sur les black box, il y a un avant et un après 2016. C'est vraiment en 2016, quelques semaines après les débats sur la loi travail de Myriam El Khomri.
Certains l'appellent la gauche insurrectionnelle.
Oui, qui a eu cette gauche des Black Blocs, peut-être pas insurrectionnelle, mais je ne sais pas si elle est de gauche.
Je vous vois.
Non, parce que moi, je pense qu'ils ne sont pas de gauche.
Non, ils sont
oui,
pas de gauche.
Ça, on est bien
ils sont insurrectionnels, ça, j'entends, oui. Mais cette ultra-gauche-là, en tant que telle, c'est. Pardon, Frédéric.
Ah,
je voilà. Justement, là, honnêtement, aujourd'hui, mais si je ne veux pas être caricatural, mais c'est un super cadeau au patronat cet après-midi. Parce que du coup, là où il y a des rassemblements festifs portant des slogans sociaux, syndicaux, à l'arrivée, qu'est-ce que ça va donner le sentiment que on tape sur des pompiers, on tape sur des policiers,
c'est nul. Philippe, et membres et la pro et ce qui est très, national
moi
PS.
Je rebondis sur ce qu'a dit Philippe sur le profil des personnes victimes, ce qui agace de plus en plus les Français, ce sont des personnes dans les actes d'insécurité dépositaires de l'autorité de l'État. Donc il y a ce sentiment que l'État n'est plus maître chez lui et qui a un délitement de l'autorité de l'État. Alors, l'insécurité n'a pas été une thématique, je dirais, majeure pendant la campagne. Elle a compté, mais moins que le pouvoir d'achat qui a tout structuré. Mais
tout
c'est
écrasé,
vrai que ces incidents, je dirais, éclipsent l'unité de la gauche, éclipsent l'unité relative du mouvement syndical et éclipsent ces questions pouvoir d'achat et retraite à 65 ans.
Et pourtant, c'est vraiment le cœur de leurs revendications aujourd'hui. Beaucoup de banderoles à ce sujet.
Ah,
c'est les retraites. Pour vous, Prisca Thévenot, voilà, c'est un vrai sujet. On a vu le président faire un peu marche arrière. Voilà, il est à l'écoute. Il a compris qu'il fallait qu'il soit.
Non.
Si, il a fait marche arrière.
Alors,
mais
pas sur la réforme, sur la méthode.
Sur la méthode, oui.
Sur la méthode, oui, effectivement. Mais je pense que, justement, une fois qu'on a bien évidemment relaté ces événements qui sont effectivement à dénoncer, et le soutien que nous avons tous pour nos forces de l'ordre et nos pompiers, je pense que ça ne nous empêche pas ensuite de discuter des revendications qui ont été exprimées aujourd'hui, parce que c'est rendre aussi hommage à tout ce qui a été mis en place, parce qu'honnêtement, après on verra, mais de ce que je comprends, ce ne sont pas des manifestants qui s'en sont pris aux policiers et aux pompiers, mais bien des casseurs.
Des casseurs, on est d'accord.
Donc effectivement, parlons du pouvoir d'achat, parlons de la réforme des retraites, puisque c'est au cœur des préoccupations des Français, et c'est tout à fait normal.
On va écouter Philippe Martinez, justement, qui, encore lui, le secrétaire général de la CGT, qui dit, attention, voilà, on se donne du temps, mais on est vigilant. On reste concentré sur la méthode, justement, dont vous parliez, Prisca Thévenoud.
Je pense qu'il peut y en avoir avant la rentrée, comme vous dites, parce que le niveau de mécontentement, il y a les retraites, mais je pense aussi au salaire. Il est très fort et il y a beaucoup de grèves dans les entreprises. Ça n'a pas cessé pendant la campagne électorale, entre les deux tours, et ça continue encore aujourd'hui. Donc il ne faut pas jouer avec le feu, souvent on se brûle.
Évidemment, il parlait des mobilisations qui n'ont jamais cessé, mais voilà, qui reprennent un peu plus fort en se disant voilà, on va laisser passer les législatives, on laisse un petit peu sa chance au produit, entre guillemets, en parlant d'Emmanuel Macron, et on verra juste après. Il sait qu'il est attendu, le président Emmanuel Macron.
Il le sait, et c'est normal. Il est élu pour rendre des comptes, il est élu pour faire face aux défis qui sont ceux de nos pays, et puis pour répondre aux préoccupations des Français. Et oui, il y a le pouvoir d'achat, on en a longuement parlé pendant les présidentielles, il y a le sujet des retraites, et quelque part, un certain nombre de mesures ont été déjà mises en place sur le sujet du pouvoir d'achat, comme effectivement la baisse de la pression fiscale sur les entreprises et les ménages, la suppression de la taxe d'habitation, le 100% santé, la revalorisation d'un certain nombre de dispositifs, comme la AAH, l'allocation adulte handicapé, et puis aussi des mécanismes de crise. Pendant la crise énergie, qui continue d'ailleurs aujourd'hui, il y a le bouclier tarifaire, il y a la ristourne à la pompe à essence, et on doit continuer. Et on doit continuer, notamment sur un sujet extrêmement fort, qui est le plus important pour moi pour protéger et défendre le pouvoir d'achat de tous les Français, c'est l'emploi. Et cette fracture-là, nous avons vraiment travaillé sur la première partie, sur ce premier quinquennat, à résorber cette fracture qui existait entre les Français qui ne travaillaient pas et ceux qui travaillent. Nous sommes enfin arrivés à un stade où on peut prétendre à atteindre le plein emploi. C'est historique.
Revenons à la mobilisation, justement, Frédéric Dabi, avec vous. On le sait, hein, le syndicalisme en France s'essouffle doucement. On voit que les adhérents, évidemment, chutent. Il y a moins de salariés aussi syndiqués dans les entreprises. C'est une vraie tendance de fond.
Oui, c'est une tendance lourde. La désaffiliation syndicale, j'ai plus le pourcentage en tête, mais c'est à peine 6 ou 7% des salariés. Faible. C'est vraiment extrêmement faible.
Et avec un gros écart entre public et privé.
Public-privé. Donc, ce qui fait que souvent, pendant longtemps, des salariés du secteur privé étaient sur une logique d'accepter une grève par procuration, c'est-à-dire le public qui pouvait faire grève faisait grève pour eux. Et ça, cette perception s'est complètement effondrée. Et puis, il y a une défiance majoritaire vis-à-vis des syndicats depuis longtemps. Et ce qui est intéressant par rapport à ce qu'a dit Prisca Thévenoud et notre débat, ce qu'a dit également M. Martinez de la CGT, c'est que si on a bien vu pendant l'élection présidentielle que l'électorat Macron, l'électorat Le Pen étaient deux électorats très antagonistes du point de vue de la génération, du point de vue de la catégorie sociale, du point de vue du niveau de diplôme ou de revenu, il y a une zone de frottement où il y a eu un vrai combat qui a été extrêmement serré, c'est le salariat. Oui. Et la question des salaires, la question du pouvoir d'achat, ça touche les salariés. 51% seulement, si je puis dire, pour Emmanuel Macron au soir du second tour dans notre sondage fiducial. Et au premier tour, et c'est la première fois que c'est arrivé, Marine Le Pen est arrivée en tête auprès des salariés du secteur privé. Mm-hmm. Donc c'est pas une catégorie anodine, c'est une catégorie extrêmement nombreuse. Et donc, dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est une catégorie qui pourrait se mobiliser et pourrait être compliquée pour le chef de l'État.
Ouais, justement, vous le disiez, Le Pen, effectivement, en tête au sein de l'électorat des ouvriers, des salariés, oui. Loin devant Emmanuel Macron. Et pourtant, les syndicats, notamment la CGT et la CFDT, ont signé une tribune commune qui désignait le Rassemblement national comme un danger pour les droits fondamentaux des citoyens et des travailleurs, comme Laurent Jacobelli.
Oui, je crois que ce qui explique le divorce entre les salariés et les syndicats, c'est ce décalage total et idéologique qu'ont les syndicats français. C'est-à-dire qu'ils raisonnent vraiment politiquement, qu'ils prennent un parti contre le Rassemblement national, qui est un parti pris idéologique, et ils ne regardent pas les programmes. S'ils avaient regardé les programmes, ils auraient vu que Marine Le Pen était contre la retraite à 65 ans, mais plutôt à 60 ou 62 ans. Et donc, logiquement, ils auraient dû dire que c'était le programme qui leur convenait le mieux, que Marine Le Pen avait beaucoup de propositions, un vrai pack de propositions pour une augmentation du pouvoir d'achat avec la baisse de la TVA, l'incitation à la hausse des salaires, l'exonération d'impôts sur les revenus pour les plus jeunes, la réindexation des retraites. Mais ils ont été aveuglés par l'idéologie et ils ont même fait pire, appelé à voter pour leur bourreau, c'est-à-dire Emmanuel Macron, l'instigateur de cette réforme des retraites à 65 ans, l'homme qui a fait en sorte que le pouvoir d'achat des plus pauvres diminuait pour augmenter celui des plus riches, celui pendant le quinquennat duquel les prix à la pompe ont explosé. Eh bien, les syndicats, aujourd'hui, sont un peu les pompiers pyromanes. Ils aident à faire élire Emmanuel Macron pour manifester contre lui le lendemain. Il y a quelque chose d'illogique et c'est pour ça, probablement, que les salariés s'en détournent et nous font de plus en plus confiance au Rassemblement National.
Allez, on reste ensemble, évidemment, on poursuit le débat avec mes quatre débatteurs ce soir, Prisca Thévenot, Laurent Jacobelli, Philippe Doucet, Frédéric Dabi. On se retrouve dans quelques instants.
Europe Soir Weekend,
Céline Géraud.
On est de retour en direct dans le studio d'Europe 1 Soir Weekend. On est ensemble jusqu'à 20h avec ce soir Prisca Thévenot, porte-parole LREM, Laurent Jacobelli, porte-parole Rassemblement National, Philippe Doucet, porte-parole PS, et enfin, ou est membre du bureau national du PS, et puis Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Alors le 1er mai, on en a parlé, traditionnellement, c'est le Rassemblement National aussi qui se retrouve autour de la statue de Jeanne d'Arc. Et cette année, c'est le président par intérim Jordan Bardella qui a déposé une gerbe, place Saint-Augustin à Paris, avec une absence très remarquée, celle de Marine Le Pen. Elle a tenu à souffler quelques jours dans un lieu tenu secret, une pause qui suscite quelques interrogations. Marine Le Pen a néanmoins tenu à faire passer un message à ses partisans dans une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux, un appel à la mobilisation pour les législatives dans une vidéo qu'on va écouter tout de suite.
Les 12 et 19 juin prochains, vous déciderez quels députés siégeront à l'Assemblée nationale. Vous aurez le choix entre des députés soumis à Emmanuel Macron, qui feront passer aveuglément toutes ses décisions sans contre-pouvoir, et les députés qui soutiennent mon projet et mes valeurs pour la France. Sans députés pour le soutenir, Emmanuel Macron sera impuissant à appliquer son projet néfaste pour la France et ses choix injustes pour les Français. Avec un maximum de députés qui me soutiendront au Parlement, je serai en mesure de protéger votre pouvoir d'achat et de porter des mesures qui reconnaissent enfin le travail à sa juste valeur.
Une vidéo donc postée ce matin à l'attention de tous les partisans, les militants du RN. Laurent Jacobelli, donc porte-parole du Rassemblement National. Cette absence de Marine Le Pen pour cette cérémonie, même si elle est justifiée, elle interpelle. Je le rappelle, depuis 88, le RN ex-FN a privatisé quelque part la statue de Jeanne d'Arc. Et c'est la première fois qu'un membre de la famille Le Pen n'y assiste pas. Les temps changent.
Non, écoutez, n'allez pas trouver des symboles ou des histoires là où il n'y en a pas. Non, mais je vous comprends.
C'est un symbole pour vous, Jeanne d'Arc, en tout cas.
Ben, Jeanne d'Arc est le symbole de l'union des Français. C'est cette héroïne qui a défendu notre pays et qui est, je crois, le personnage historique préféré des Français avec le général de Gaulle. Oui, c'est un symbole d'union. C'est le symbole de notre combat pour la souveraineté, l'indépendance de la France. Le président du Rassemblement National était présent. C'est traditionnellement le président du mouvement qui est
oui,
présent.
Oui, mais reconnaissez que cette absence a été remarquée.
Marine Le Pen a envoyé une vidéo. Vous savez, elle a fait une campagne depuis septembre dernier sur le terrain, beaucoup de déplacements. Elle a fait une campagne, je crois, remarquée, où elle a réussi à rassembler 13,5 millions d'électeurs. Dès lundi dernier, nous préparions les législatives pendant plusieurs jours et elle a mené les réunions, mené le combat pour lancer cette nouvelle étape, ce troisième tour. Elle a pris quelques jours de repos.
Elle ne pouvait pas faire une petite escale pour déposer la gerbe.
Elle a fait un clip vidéo, mais je pense qu'elle a dit l'essentiel. Elle a dit que autour de cette statue de Jeanne d'Arc, c'était l'amour de notre pays qui nous unissait, que par amour pour ce pays et ses habitants, il fallait ne pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. C'est ça l'essentiel. Et elle l'a dit parce qu'on le voit bien avec la retraite à 65 ans, nous sommes les seuls à nous y être opposés pendant la présidentielle, puisque les autres ont été ralliés ou très soumis, comme M. Mélenchon au président Macron. La droite aujourd'hui se cherche, mais est prête, je crois, à sacrifier quelques principes pour aller à la soupe avec la majorité présidentielle. Nous sommes du coup la seule opposition. Nous étions ce matin autour de Jordan Bardella. Marine Le Pen a fait une vidéo. Tout va bien. Dès demain, elle sera à nouveau présente au poste pour.
Oui, parce que vous avez une grande réunion justement pour.
Et oui,
pour
577
décider.
Candidats voilà, dans toutes les circonscriptions de France. Et donc, c'est du travail.
Frédéric Dabi, directeur d'IFOP.
J'ai trouvé le fond intéressant, au-delà de la présence ou de l'absence de Marine Le Pen. C'est vrai que toujours, avant le 1er mai tombé entre les deux tours, en 88, Jean-Marie Le Pen qui crie, qui hurle, Mitterrand, c'est Chirac, non, Chirac, non, c'est Mitterrand, Chirac, pire, oui, etc. Là, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce message, elle met le doigt sur ce qui peut être un danger mortel pour le Rassemblement national dans le cadre des futures législatives, à savoir l'abstention, la, oui, démobilisation de son électorat. On se souvient, alors peut-être que ça ne se passera pas de la même manière, aussi bien pour la gauche que pour les autres oppositions. Mais en 2017, la participation chute de 28 points entre la présidentielle et les élections législatives. 28 points, c'est surtout les catégories populaires, des classes moyennes qui avaient voté Le Pen, qui avaient voté Mélenchon, voire des classes supérieures qui avaient voté François Fillon. Et voilà, par ce différentiel de mobilisation, il y a eu le raz-de-marée de La République En Marche. À l'époque, c'était En Marche, c'était à peu près La République En Marche, et du Modem. Donc, elle est sur cette logique-là de mobiliser son électorat. C'est ce que fait, et Jean-Luc, il l'a fait au sort du premier tour, Jean-Luc Mélenchon. C'est intéressant de voir que la bataille pour les législatives a commencé de manière nettement plus précoce que lors des élections précédentes.
Vous êtes d'accord, Philippe Doucet ?
Oui, je pense que c'est une des difficultés de notre système institutionnel. C'est que pour les Françaises et les Français, l'élection présidentielle, c'est l'élection reine, puisque tout le monde pense que le président a tous les boutons. Mais comme Édouard Philippe l'a rappelé dans un livre qu'il a écrit avec Gilles Boyer, il rappelle que la France, c'est un régime parlementaire. C'est-à-dire que pas de députés, pas de bras, pas de chocolat. C'est-à-dire que du coup, vous n'avez pas de dispositif pour voter à l'Assemblée nationale. Donc, un président est fort quand il a une majorité à l'Assemblée nationale. Et les Français n'ont pas intégré ce dispositif-là parce qu'ils pensent que le système est totalement présidentialisé, ce qui est faux. Et donc, du coup, il y a effectivement, pour les classes populaires et en fait, pour ceux qui n'ont pas gagné l'élection présidentielle, il y a un certain nombre de gens qui disent « ça ne sert plus à rien ». X ou Y était élu ou réélu. Et en plus, c'est une tendance qui s'aggrave. Vous voyez, quand j'ai été élu député en 2012, il y avait 50% de participation, ce qui avait déjà chuté dans ma circonscription, ce qui avait déjà chuté par rapport au...
À peine 55 au national,
voilà,
je crois.
À peine 55, donc un peu en dessous. Ouais. En 2017, c'était descendu à 35. C'est-à-dire que chaque élection législative qui passe, au moins qui passait jusqu'à présent, il y avait une chute de la participation en disant... Ça ne sert plus à rien, il est élu, donc en gros, on ne perd pas notre temps. Bon, cette conception utilitariste du vote qui a gagné dans l'électorat, eh bien, aide pas, effectivement, et c'est un risque pour Marine Le Pen, c'est un risque pour Jean-Luc Mélenchon, c'est un risque pour tous ceux qui n'ont pas gagné l'élection présidentielle. Et donc, on a cet enjeu-là en disant, bon, voilà, ça ne sert plus à rien. Et tout le monde sous-estime l'importance de ces élections législatives, et encore plus cette fois-là, parce que, voilà, un président, s'il n'a pas ce qu'on appelle en droit constitutionnel, un bloc majoritaire. Et en fait, le président est fort quand il a président, premier ministre et majorité à l'Assemblée nationale. Autrement, c'est compliqué.
Personne de chez vous, Prisca Thévenot, ne va appeler à lutter contre l'abstention du côté des
REM. On le fait. Il y a des campagnes qui sont menées. D'ailleurs, là, Marlène Schiappa a lancé une campagne de communication sur ce sujet pour dire qu'il est encore temps de s'inscrire pour les élections législatives. Donc ça, c'est important de le rappeler par courrier, en mairie... Ou sur Internet. Et moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin que ce qui a été dit tout à l'heure. C'est même au-delà du président fort. L'importance d'avoir une majorité pour le président, c'est surtout pour déployer son programme, le programme pour lequel il a été élu. Et notamment, permettre au président d'avoir une majorité, c'est lui permettre, typiquement, sur les sujets sociaux, les sujets de pouvoir d'achat, de faire la suppression de la redevance audiovisuelle, de mettre la solidarité à la source. Oui, c'est important et vraiment...
Mais c'est une proposition de Marine
Le Pen. J'espère que vous le voterez. Et justement, vous me faites un bon lien sur cela parce que j'aime rappeler aussi, et je l'ai vu au cours des 5 dernières années, comme citoyenne, parce qu'on peut regarder ce qui se passe à l'Assemblée, que beaucoup d'oppositions avaient dit qu'elles seraient une opposition constructive, etc. Et finalement, arriver à l'Assemblée, voter contre des sujets qu'elles avaient pourtant poussés avant, parce que c'était super bien de montrer qu'ils étaient contre le président, et du coup, ils faisaient contre la France. Le Rassemblement National a voté systématiquement... Vous êtes là, donc je vous parle. Le Rassemblement National...
Vous écoutez.
Il y a du mouvement, toujours à l'avant, à l'arrière, dans tous les partis.
Je suis là pour... Le Rassemblement National, en tout cas, les députés du Rassemblement National à l'Assemblée, ont systématiquement voté contre les augmentations de budget pour les forces de l'ordre, ont voté contre la loi qui permet de supprimer supprimer le rappel à la loi qui permet de moderniser la justice. Et donc ça, c'est important pour ça. Et donc c'est pour ça qu'il est
Laurent Jacobelli.
C'est pour ça qu'il est important d'avoir une majorité pour pouvoir faire avancer le pays.
Vous savez très bien que les sujets dont vous parlez étaient englobés dans d'autres, avec d'autres mesures qui pour nous étaient inacceptables. Oui. C'est pour ça que nous avons voté contre. Mais surtout le problème qu'il y avait dans cette législature et qui, je crois, pourra choquer tous les gens qui sont autour de cette table et probablement tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'à l'époque, Marine Le Pen au deuxième tour avait fait 11 millions de voix et que nous n'avions que 7 députés alors que fait plus de 20% aux législatives.
Bon
et donc,
sujet.
Ça met l'urgence de la proportionnelle au cœur du
tout
débat. Proportionnelle qui nous avait été promise au moins par petite dose par le président de la République. Promesse non tenue, comme la Banque de la démocratie d'ailleurs.
Soyons
pour financer
pour
les campagnes. Et donc, j'espère que cette fois-là, ce sera le cas. Mais surtout, vous savez, un député de l'opposition, c'est aussi un barrage. Et chaque député Rassemblement National, demain, sera un barrage contre l'immigration massive, contre l'insécurité, contre la perte du pouvoir d'achat et contre la taxation frénétique
alors,
des Français.
Le Rassemblement National, Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, veut incarner l'opposition principale Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Ça veut dire obtenir un nombre de députés supérieur au seuil des 15 qui permettrait donc de constituer un groupe parlementaire. Selon vos évaluations, pour un second tour, plus de 350 circonscriptions, vous restez sur cette estimation ?
Je n'ai pas dit que nous aurions 350 députés.
C'est des estimations, voilà. Vous pouvez.
En tout cas, ce ne sont pas les
nôtres. Mais...
Il y a eu 158 circonscriptions où Marine Le Pen est arrivée en tête au second tour et 206, qui est beaucoup, où elle est arrivée en tête au premier tour.
Donc,
pas le même scrutin.
Oui, on est bien d'accord. Je veux dire, dans un monde idéal, c'est
on
ça.
On peut très légitimement imaginer, bien sûr, que nous aurons un groupe et que nous aurons même largement plus de 50 députés. Plus nous en aurons, mieux ce sera. Mais vous l'avez dit, nous sommes. Aujourd'hui, nous le considérons la seule opposition. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il parle très fort. Il essaye d'ailleurs d'unir tout et son contraire sous la même bannière. Jean-Luc Mélenchon a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Et donc, il s'est soumis de fait à Emmanuel Macron. La droite, on l'a vu, est explosée façon puzzle. Et donc, aujourd'hui, si on veut mettre un frein à la triste politique d'Emmanuel Macron, qui est, je crois, une politique de toutes les insécurités pour les Français, qu'elles soient sociales, physiques, identitaires, civilisationnelles, c'est le vote Rassemblement National. Et c'est pour ça que nous serons présents dans toutes les circonscriptions.
Frédéric Dabi.
Oui, ce qui est très intéressant, c'est de voir cette lutte entre les différentes oppositions éparpillées pour pouvoir incarner l'opposition majeure à Emmanuel Macron. En 2017, c'était la France Insoumise qui était parvenue à incarner cette opposition jusqu'au mouvement des Gilets jaunes, ou à partir du mouvement des Gilets jaunes, c'est le Rassemblement National qui était parvenu à incarner la principale opposition. Là, où il y a un atout pour Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il essaye, et ça flatte beaucoup le peuple de gauche qui a accusé un troisième 21 avril, de s'inscrire dans une logique unitaire. Alors, ça peut aussi agacer beaucoup un électorat social-démocrate, écologiste, qui voit quand même des lézardes, pour ne pas dire des fissures irréconciliables, entre l'offre de Jean-Luc Mélenchon et le programme qui était celui d'Anne Hidalgo ou de Yannick Jadot ou de Fabien Roussel. Le souci pour le Rassemblement National, donc j'ai parlé de 158 circonscriptions où Marine Le Pen est arrivée en tête, c'est un nombre absolument impressionnant. Est-ce qu'il y aura une conversion à 100%, c'est-à-dire 158 députés? Je ne le pense pas. Au-delà de la question de l'enracinement local, c'est les configurations de second tour qui restent compliquées pour le RN, puisque compte tenu de l'abstention qui, j'ai envie de dire, malheureusement, risque d'être forte, compte tenu de la règle...
Vous pensez qu'elle sera encore forte cette
je
année
n'en ai aucune idée, mais
malgré
on est dans
les
un
appels effectivement à lutter contre l'abstention, malgré le contexte aussi.
La campagne va durer 2 semaines de plus qu'en 2017. C'est le calendrier électoral. C'est un deuxième mandat pour Emmanuel Macron, ce sera plus simple. Enfin, il n'y aura sans doute pas cette vague qu'il y avait eu en 2017. Et puis, comme on l'a dit, les oppositions ont lancé la campagne extrêmement tôt. Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour, Marine Le Pen quasiment le lendemain du second tour. Mais ce qui est compliqué avec les règles des 12,5 des inscrits, c'est que la triangulaire, c'est-à-dire le fait que 3 candidats puissent se maintenir au second tour qui favorise le Rassemblement National, on l'avait vu par exemple en 1997 aux législatives, va être extrêmement rare. Et le duel de second tour, c'est-à-dire que le RN dans une circonscription fasse 50% plus une voix, est très compliqué à atteindre. Je rappelle qu'entre 88, la victoire de Yann Pia dans le Var, et 2017, par exemple, la victoire de Gilbert Collard, qui n'est plus RN, mais d'autres députés RN, le RN n'avait plus jamais gagné en duel dans un second tour, quelle que soit l'élection.
Merci pour ces précisions. Voilà, ça pose un peu le décor. Philippe Doucet, membre du bureau national du PS, vous y croyez-vous à ce sursaut, j'ai envie de dire, de patriotisme, voilà, ce sursaut électoral? Les Français, il y aura moins d'abstention qu'il y a 5 ans pour ces législatives?
Franchement, je ne sais pas. Parce qu'il peut y avoir ce qu'évoque Frédéric, c'est-à-dire une dynamique politique enclenchée. Il peut aussi y avoir la question de la proportionnelle est quand même... C'est-à-dire que tout le monde a bien compris aussi que c'est un peu le résultat de ce qui s'est passé en 2017 et d'ailleurs précédemment. C'est que finalement, les forces minoritaires se font un peu éradiquer du Parlement. Et donc ça aussi, les gens ont compris ça. Donc je ne sais pas comment ça se passe. Par ailleurs, il y a un autre composante que tout le monde oublie, c'est la partie que va jouer Emmanuel Macron.
C'est-à-dire
que tout le monde part du principe qu'aujourd'hui, il est statique. Et que les autres forces, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou que ce soit Marine Le Pen, est en dynamique en disant, Premier ministre, ou ce qu'elle vient de faire dans la vidéo dont vous avez passé le sonneur il y a quelques minutes. Mais Emmanuel Macron aussi, il va se mettre en mouvement, donc vous ne savez pas comment il va cranter un certain nombre de choses. Là, par exemple, s'il est plus prudent sur la retraite, les gens peuvent se dire, ok, les choses se dégagent. Tout dépend comment les choses se cristallisent ou pas dans les 6 semaines.
Oui.
C'est-à-dire que soit il donne des choses à combattre, et là, du coup, les gens viendront contre. Ils ne vont pas venir pour. Oui. Le soutien d'Emmanuel Macron vont être pour. Mais soit il y a de la mobilisation contre et les gens viennent, soit il a réussi à euthanasier, à anesthésier plutôt...
Il est dans une position d'attente, vous avez vu.
Il est dans une position d'attente, oui, mais déjà, c'est un premier signal. Il aurait pu nommer très vite un Premier ministre, finalement, il décide d'attendre. Qui nous dit qu'il ne va pas garder un certain nombre de ministres clés, défense,
il attend peut-être aussi l'issue des alliances à gauche.
D'une part, donc il va avoir un peu par rapport à ça. Donc il peut, j'ai déjà entendu, être plus prudent sur l'histoire de la retraite en disant 2023 et ça. Donc vous ne savez pas comment il a décidé de bouger. Et donc lui-même va être un acteur de la participation ou de l'abstention. Parce que si finalement il donne le sentiment de baisser de volume, ça va offrir moins de prises et au Rassemblement National et à Jean-Luc Mélenchon. Donc le jeu, c'est un jeu ouvert en fait. Hein. Donc
c'est un peu un poker.
Parce que du coup, l'élection, Frédéric le rappelait, l'élection est quand même loin. Là, on est 1er mai. Premier tour est dans 7 semaines, le 12 juin, c'est dans 7 semaines. Il va s'en passer des choses dans 7 semaines. Mmh. Donc la composition d'un gouvernement, la tête et le nom du Premier ministre, les premières mesures engagées, la question du pouvoir d'achat. On a l'indexation des retraites au 1er juillet, mais pour le moment, ça fait pas la maille. Mais le point d'indice des fonctionnaires est un élément clé parce qu'on est à
34 euros d'augmentation du SMIC. C'est mécanique.
4,3% d'inflation.
4,8.
4,8, ce qui est quand même plus l'INSEE, mais c'est au-dessus de ce que l'INSEE avait estimé. Donc 4,8, OK, il y a l'essence, le gasoil et tout ça, mais c'est aussi le reste. C'est le prix de la baguette. Moi, la baguette chez moi, j'ai acheté hier, elle a pris 10 centimes d'euros chez mon boulanger habituel.
Les pâtes, donc, 19%.
Voilà. Donc du coup, ça va peser. Donc la question du pouvoir d'achat, est-ce qu'il fait un geste plus fort sur le SMIC? Est-ce qu'il fait un geste plus fort? Est-ce qu'il fait un geste sur le point d'indice fonctionnaire? Ou est-ce qu'il ne le fait pas? Et que du coup, est-ce que le pouvoir d'achat devient un enjeu majeur de cette élection législative? Donc il n'y a pas que les oppositions qui sont actrices. Elles sont actrices, mais Emmanuel Macron aussi, il est acteur. Et donc il a des cartes en main pour jouer. Il ne faut pas le sous-estimer.
C'est une campagne qui joue.
Et il ne faut pas sous-estimer Emmanuel Macron dans cette affaire-là. Je dis ça par rapport à mes amis qui pensent qu'il est statique. Je pense que le monsieur a montré qu'il pouvait être assez mobile.
On surveillera ça évidemment. Et alors, on reste ensemble jusqu'à 20h, bien sûr, Europe Soir Weekend, avec mes invités. On continue à débattre et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Europe Soir Weekend,
Céline Géraud.
Europe Soir Weekend, on est ensemble jusqu'à 20h. On débat des sujets qui font l'actualité. Alors, on a parlé du 1er mai, des rassemblements, des syndicats, des heurts aussi, malheureusement, des débordements des Black blocs dans les rues de toutes les villes de France, notamment à Paris. En attendant, on va revenir sur ces alliances qui se nouent à la droite de la droite ou qui ne se nouent pas, justement. Jordan Bardella s'est exprimé ce matin à l'issue évidemment de cette cérémonie de remise de gerbe place Saint-Augustin à Paris à propos de ce qui pourrait être une alliance avec Reconquête, mais en cas de qualification au deuxième tour. Je vous propose de l'écouter. Il parle de se recentrer sur l'essentiel.
Il y aura des candidats du Rassemblement National dans toutes les circonscriptions. C'est le moindre respect que nous devons à nos électeurs qui nous ont placés au second tour de l'élection présidentielle. Mais il y aura des gens qui seront soutenus par le Rassemblement National et qui ont pu être par le passé aux Républicains, et même certains qui ont pu s'approcher de Reconquête et qui s'en sont éloignés. Mais je pense que ces histoires d'appareils intéressent peu les Français. Moi, je veux parler aux électeurs. Je veux dire aux électeurs de LR, les patriotes sincères de LR ou de Reconquête, que nous avons réuni 13 millions de voix et qu'il faut nous donner de la force aujourd'hui, qu'on partage l'essentiel. Et donc, le rassemblement doit avoir lieu derrière les candidats. On est arrivé en vérité devant Éric Zemmour dans 96% des circonscriptions. Donc, les Français nous ont conféré ce rôle aujourd'hui, en tout cas à Marine, d'être la leader de l'opposition, la chef de l'opposition. Mais il peut y avoir d'ailleurs au second tour, dans l'intérêt du camp national, le soutien à des candidats patriotes les mieux placés, si les candidats du RN ne devraient pas être au second tour.
Alors je parlais d'alliance, évidemment, il s'agit plutôt d'une main tendue, parce que l'alliance, elle n'aura pas lieu, on est d'accord, hein, le divorce, il n'y a même pas eu de réconciliation, donc voilà, il n'y a pas eu de mariage, il n'y a pas de divorce. En attendant,
même
voilà.
Pas, même pas de VG, il n'y a même pas eu de VG.
voilà, en tout cas, ce qui se passe actuellement à la droite des droites est intéressant aussi, parce qu'on sent que Zemmour vous ferait vraiment de l'appel du pied, Laurent Jacobelli, porte-parole du RN. Alors, vous résistez pas à la tentation, parce qu'il n'y en a pas, vous avez été largement au-dessus, mais il y a cette petite ouverture qu'il n'y avait pas encore il y a quelques jours, en disant, voilà, si Reconquête qualifie, entre guillemets, quelques soldats au deuxième tour, on sera au soutien.
Oui, bien sûr. Je pense que les Français n'aiment pas trop ces tripatouillages de partis où on dit bah, « je te donne tel circo, tu me donnes tel autre, on te fait passer trois députés, tu m'en sauves quatre ».
La fameuse tambouille électorale dont parlait Jean-Luc Mélenchon.
Je pense que ça montre bien que ceux qui font ça préservent l'intérêt d'individus ou de groupes politiques avant l'intérêt des Français. On ne veut pas rentrer là-dedans, surtout que d'ailleurs nous avons de vraies divergences de fond aussi avec le parti d'Éric Zemmour, comme par exemple, on en parlait tout à l'heure, sur la retraite. Éric Zemmour est beaucoup plus proche d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites qu'il ne l'est de nous. Donc il y a un premier tour, les Français vont aller voter et puis au deuxième tour, si un candidat qui n'est pas le candidat RN est mieux placé pour gagner l'élection et que le candidat RN est mal placé, nous désisterons. C'est une évidence. Nous demanderons d'ailleurs la même chose aux autres formations. Je crois que il faut éviter le spectacle que donne la gauche aujourd'hui. La gauche qui se rallie au panache blanc de M. Mélenchon. Mais moi, je pense à cette gauche républicaine, cette gauche qui croit en la laïcité, qui croit dans nos valeurs, qui a toujours joué le jeu de la démocratie et qui voit que, par exemple, un candidat comme Taha Bouaf, qui est quelqu'un qui a été condamné en première instance pour racisme, qui parle d'une leader syndicale de police comme l'arabe de service, qui s'est baladé avec la tête de Marine Le Pen au bout d'une pique, j'en passe, et des bien pires. Eh bien, je pense qu'ils sont mal à l'aise, les gens de cette gauche républicaine qui ont probablement une autre vision de la politique, de devoir se rallier derrière un extrémisme qui ne se cache plus du tout, teinté de communautarisme. Et donc nous, on ne veut pas rentrer dans ce genre de choses. Nous avons notre programme, les Français nous ont placés comme première force d'opposition. Nous appelons à voter au maximum dès le premier tour pour nos candidats, parce que ce sont ceux qui ont le plus de chances de devenir députés. Et puis si au deuxième tour ils ne sont pas là, eh bien nous prendrons la sage décision de faire battre Emmanuel Macron, bien sûr.
Vous pourriez peut-être débaucher néanmoins Stanislas Rigaud, animateur de Génération Z. Tous les autres sont blacklistés, on l'a dit. En tout cas, voilà, celui-là, parce qu'il est jeune et friable.
Non, mais pas du tout. Mais c'est un exemple. C'est un exemple qu'a cité Jordan Bardella, parce que effectivement, oui, Stanislas Rigaud n'a jamais eu une parole dure contre le Rassemblement National et n'a jamais été insultant contre Marine Le Pen. Et donc, bien évidemment, c'est un exemple qui montre que oui, il pourrait y avoir demain des gens que nous soutenons. Je ne dis pas que c'est le cas d'ailleurs, hein, rien n'est décidé dans ce sens. Mais effectivement, il faut le dire, un certain nombre de cadres qui d'ailleurs étaient partis du Rassemblement National pour aller flatter leur ego ou renflouer leur portefeuille avec M. Zemmour, ceux-là, clairement, qui sont des traîtres, ne peuvent pas participer à une reconstitution sereine.
Voilà, le mot est lâché. Trahison dure. Voilà. Non, mais il y a de la trahison aussi du côté des LR, on en parlera tout à l'heure.
C'est bien parce qu'on rajeunit de 25 ans, là, grâce à vous, mon cher Laurent. La guerre Le Pen-Maigret.
Non, mais attention.
Pour Nicolas Béat, pas ça. Pas se mettre le long d'amour, il pourrait se prendre 12 balles.
Je ne dis pas ça de tous les cadres de Reconquête, et je ne dis pas ça, bien évidemment, des électeurs électeurs de Reconquête, oui. mais quelle confiance on peut avoir en des gens qui sont partis en cours de campagne pour oui. rejoindre un autre camp et qui maintenant viennent gratter à la porte.
Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP.
J'entends ce qui est dit par Laurent Jacobelli et par Jordan Bardella. C'est une question, la politique, pardon, c'est une question de rapport de force. Trois fois plus d'électeurs au premier tour pour Marine Le Pen comparé à Éric Zemmour. Alors que Marine Le Pen, entre les deux tours, n'a pas fait beaucoup de gestes vers l'électorat Zemmour. Elle a eu des bons reports. Alors, ça s'est érodé de 80 à 75%. Mais voilà, et c'est vrai qu'aux élections législatives, Reconquête est un parti nouveau, alors qu'il y a déjà beaucoup d'adhérents. Et de ce point de vue-là, c'est une réussite sur la force militante, mais qui n'a pas, par définition, de sortants, ou que peut-être des anciens députés RN, mais je ne pense pas qu'il y en a qui...
Il serait en mesure de se qualifier au deuxième tour dans trois circonscriptions, c'est ça? Oui. Deux à Paris et un des Français de l'étranger.
Voilà, c'est quand même... Oui, en plus, la circonscription d'Israël, mais il y a aussi la Turquie et l'Italie, qui, je pense, les Français là-bas ne voteront pas pour Reconquête. Ouais. Enfin,
ils vont présenter 550 candidats et aucun contre Le Pen, Dupont-Aignan...
C'est vrai que ce sera relativement compliqué, et compte tenu des règles que je rappelais de... maintien au second tour, je ne pense pas qu'il y aura un seul cas de désistement d'un candidat Reconquête qualifié pour le second tour pour un candidat RN ou l'inverse. C'est une question, voilà, je le disais, de rapport de force.
Philippe Doucet, membre du Bureau national du PS.
Bon, écoutez, je ne sais pas, enfin, je ne vais pas m'exprimer pour le Rassemblement national. Après, il y a un peu une règle. Quand Nicolas Beck, je vois là, qui est sur une chaîne d'information,
CNews,
ou même Marion Maréchal, qui part
Elle est
milieu.
Enceinte et du coup, elle ne se représente pas pour le coup dans Vaucluse.
Il faut peut-être mieux que ça se passe comme ça pour elle, je ne suis pas à sa place.
Elle prépare les européennes, semble-t-il.
Mais c'est sûr que dans une organisation politique, quand vous avez pris un coup de couteau comme ça dans le dos... La bienveillance n'est pas la caractéristique la mieux portée. Voilà. Et ça ne vaut pas simplement au Rassemblement national. C'est vrai, Frédéric rappelle.
Qu'est-ce que ça vous inspire, justement, ces luttes intestines, ces querelles, cette tambouille électorale qui aura quand même été l'un des temps forts de cette campagne, de tous les côtés, à droite comme à gauche.
Oui, mais derrière, après, je ne suis jamais d'accord avec ces mots-là. Derrière, après, j'ai entendu sur une chaîne Marion Maréchal. Elle développe sa vision, peut-être sur LCI, je ne sais plus, elle développe sa vision des choses. C'est son droit de développer sa vision des choses. Sa vision n'est pas clairement celle aujourd'hui portée par Marine Le Pen. C'est son droit. Bon, les électeurs ont tranché. Donc, finalement, elle est cohérente avec elle-même. Elle fait une lecture qui est de dire, qui est la même que Zemmour, qui est de dire, il faut qu'à un moment donné, l'union des droites, il faut qu'il y ait les classes populaires et la classe bourgeoise patriote, comme pour reprendre les mots de Zemmour, se rassemblent. Bon, c'est pas la grille de lecture aujourd'hui du Rassemblement National, donc il y a un désaccord politique. Après, il y a des histoires humaines, parce que la politique, c'est aussi plein de choses humaines, plus que ce que les gens pensent, d'ailleurs. Il n'y a pas toujours, obligatoirement, que de la rationalité en politique, ça se saurait.
On va écouter, justement, Guillaume Pelletier, vice-président du parti Reconquête. Il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk, dans le Grand Rendez-vous, et il appelle toutes les droites et tous les patriotes à s'unir contre le président réélu.
Ceux qui refusent cette main tendue acceptent et accepteront sur le temps long la fatalité de la défaite, la culture de la défaite, l'esprit de la défaite. Ça n'est pas notre intention avec Éric Zemmour. Le grand enjeu qui vient est de rassembler les droites et les patriotes, de rassembler les bourgeois patriotes et les ouvriers identitaires, d'associer ces deux blocs, la droite et les patriotes, pour enfin gagner les élections. Ceux qui refusent chez les Républicains et au Rassemblement national cette stratégie d'union porteront, oui, une immense responsabilité, mais je lance aussi cet appel d'espoir ce matin, puisque Reconquête, si cette union est refusée, présentera des candidats dans toutes les circonscriptions de France, et nous allons semer en 2022, nous allons moissonner en 2024 lors des élections européennes, et nous pourrons savourer et déguster la victoire en 2027 à l'occasion de l'élection présidentielle.
Les bourgeois patriotes, les ouvriers identitaires, avant de vous entendre évidemment Frédéric Dabi là-dessus, un mot Prisca Thévenot, qu'est-ce que ça vous inspire? Voilà, Reconquête, voilà, ne va pas s'éteindre. Hein. On sent que voilà, ils ont envie de continuer à exister, même si ça va pas être simple.
Alors oui, mais bien évidemment, il y a pas de sujet. Ce que je retiens moi de cette prise de parole et uniquement de ce sonore qu'on vient d'entendre, c'est que ça parle beaucoup, effectivement, d'appareil politique, d'envie de revanche, et à aucun moment je n'ai entendu parler des Français. Ok, on peut vouloir une revanche politique, mais là, l'enjeu n'est pas celui-là. Quand on a des défis qui sont les nôtres sur le sujet de la santé, du pouvoir d'achat, de l'énergie, de l'Europe, avec une guerre qui est quand même sur notre continent, c'est quand même assez étonnant d'avoir un discours aussi déconnecté.
Il y a un côté sauf qui peut, effectivement, qui est vraiment palpable.
Oui, mais sauf qui peut politique. Mmh. En fait, il s'agit de leur survie politique ou peut-être de leur espoir de vivre en politique et pas de la vie des Français.
Mais pas que, parce que, là-dedans, il y a un désaccord de fond, je pense, parce que derrière, ils parlent de l'union des droites. La ligne du Rassemblement National, c'est le peuple contre les élites. Et donc, du coup, c'est pas la même ligne politique.
J'ai une carte d'adhérent pour vous.
Je donne l'explication.
On va embaucher Philippe Alifop. Parce que c'est ce que c'est vrai que
directeur général
Marine
de l'Institut
FOP ne se réclame pas de droite, et quand on la taxe d'extrême droite, elle le réfute assez violemment. C'est vrai que l'union des droites sur le papier, ça peut être intéressant. C'est intéressant ce que dit Guillaume Pelletier sur des ouvriers identitaires, j'ai du mal à comprendre, et des bourgeois patriotes, mais on voit que c'est toute une série de sujets. Il y a des sujets sur lesquels ces deux catégories qu'il faudra expliquer peuvent être d'accord, sur les questions identitaires, les questions d'insécurité, d'immigration, mais sur les questions économiques, sur la question du rôle de l'État, sur la question européenne, on a des vraies différences. Si on prend LR, le RN et Reconquête, je dis bien LR, pas seulement Scott de Valpérez,
les Républicains,
LR, avant la présidentielle, il y avait beaucoup de points communs, de constats communs. Ça a été aussi un des leviers de la dynamique Zemmour. C'était Cassandre, celui qui annonçait, qui comprenait l'état du pays. Mais sur beaucoup d'autres thèmes, je parlais de l'Europe, je parlais de la réforme, je parlais même de la réforme des retraites, même, il y a des vraies divergences. Donc l'union, elle est difficile sur le papier.
Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National.
Oui, en effet, je pense que la proposition faite par Guillaume Pelletier, même si elle part d'une bonne intention, j'imagine, elle est anachronique.
C'est-à-dire
imaginer un bloc de droite face à un bloc de gauche, c'était vrai il y a encore plusieurs décennies, mais on le voit bien, le parti emblématique de la droite aujourd'hui est en dessous des 5% à la présidentielle. La gauche, j'ose même pas évoquer son score, le parti traditionnel qui est le PS, c'est une trace dans les résultats électoraux. Et donc, ça veut bien dire que ce clivage droite-gauche, il est passé. Mmh. Aujourd'hui, vous avez ceux qui sont pour la dérégulation totale, la mondialisation, où l'homme est un producteur-consommateur, qui sont des ultra-libéraux sans règles. Ça, c'est le clan d'Emmanuel Macron, qui a su d'ailleurs rassembler des gens de droite et de gauche,
et qui continue à cotiser,
qui pensait comme ça, et qui continue à élargir son assise dans les anciens partis traditionnels de droite et de gauche. Et de l'autre côté, vous avez le Rassemblement National avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui eux disent que la nation protège, la nation c'est le pouvoir d'achat, la nation c'est l'emploi, et que nous devons être fiers de nos racines, de notre présent et de notre futur. Ce sont deux débats, mais là aussi, des gens de gauche comme de droite peuvent s'y reconnaître. Et donc, ces bons vieux accords d'hier où la droite du centre, la droite de la droite s'unissaient, tout cela
n'a aucun sens. Donc vous entendez dire que Guillaume Pelletier vit dans le passé.
Écoutez,
en tout cas, Émile Zola, quoi.
Il a écumé tellement de partis de droite que peut-être il a ce réflexe aujourd'hui, mais honnêtement, c'est plus le cas. Et d'ailleurs, je me permets, puisque vous parliez, cher Philippe Doucet, de ce qui se passait dans notre camp politique, je vais parler de ce qui se passe chez vous. Moi, je suis étonné de voir...
On va en parler dans la deuxième partie, je vous rassure, à partir de 19h.
Mais je suis très étonné de voir des gens qui sont pour le nucléaire s'associer avec des gens qui sont contre le nucléaire, des gens qui sont fédéralistes européens s'associer avec des gens qui sont eurosceptiques. Tout ça pour maintenir des postes. Je pense que là, on n'est plus dans la conviction. On est dans la survie électorale. Et je crois que nos concitoyens méritent mieux que ce nombrilisme qui veut que nous défendions nos postes avant de défendre nos compatriotes.
Alors là, vous faites un petit teaser, un petit appel du pied pour mon débat suivant, qui sera justement sur les alliances
c'est
et sur,
dimanche,
sur ce que dénonçait Stéphane Le Foll ce matin en parlant d'effacement du Parti Socialiste, si alliance il y a. Philippe Doucet, en tout cas sur les propos de Guillaume Pelletier, voilà, sur ces catégories, voilà, il n'y a plus de blocs, il y en a 3, 4, 4 selon Brice Teinturier, mais on en parlera tout à l'heure.
Oui, mais parce que après, derrière, ça c'est la lecture sociologique et politique de la société française. Est-ce que aujourd'hui, je pense que ça, on a d'ailleurs le même problème à gauche. Est-ce que ce pays, les élites peuvent être séparées des classes populaires, ce qui est le cas à gauche? Est-ce que les élites ont fait sécession quelque part, puisque on constate que, à mon grand désespoir, mais les classes populaires, c'est-à-dire ouvriers, employés, sont majoritairement aujourd'hui chez Marine Le Pen, notamment au second tour élection présidentielle. Quand vous rajoutez à ça la logique, même logique, en partie, certains d'entre eux sont chez Jean-Luc Mélenchon. Et donc, on a cette sécession peuple-élite. Et je pense que sur la durée, c'est très compliqué pour un pays que ces élites ne fonctionnent plus avec au moins le peuple. Parce qu'on peut critiquer le clivage gauche-droite, mais il y avait des élites de gauche avec un peuple de gauche, et il y avait des élites de droite avec un peuple de droite. Et il y avait une régulation démocratique autour de ça. aujourd'hui, finalement, nous n'avons plus de régulation démocratique. Et vous verrez d'ailleurs que c'est un de nos enjeux des législatives, parce que si les législatives ne correspondent pas à la réalité politique de ce pays, eh bien, la réalité de la bataille politique se fera... Il y a un risque qu'elle se fasse dans la rue, voyez, puisque finalement, l'Assemblée ne sera plus le lieu de régulation politique. Mmh. Donc aujourd'hui, on est sur des points de blocage. C'est-à-dire qu'on a un Rassemblement national qui est haut, on a un Jean-Luc Mélenchon qui est haut, on a finalement quelque part un bloc central qui est haut, mais au final... Le système est complètement bloqué. Et c'est une des difficultés. D'ailleurs, c'est la vraie difficulté du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas comment il va faire pour gérer un pays aussi clivé en quatre morceaux. Parce qu'on oublie le bloc des abstentionnistes.
Ouais, absolument. On en parlera de ces quatre blocs, justement, dans la deuxième partie. Mais tout de suite, voilà, on se retrouve pour le journal de 19h. Et l'aventure continue. Europe Soir Week-end, juste après le journal.